Aujourd'hui, nous recevons Joël Picot. Joël Picot est directeur de recherche à l'IRD. Il est affecté depuis fin 1999 à Toulouse au laboratoire d'études en géophysique et océanographie spatiale qui dépend du CNES, du CNRS et de l'Université Paul Sabatier. Il est spécialiste du phénomène El Niño. Il se définit comme un grand voyageur devant l'éternel. Parmi son parcours, je mentionnerai qu'il a enseigné à l'Université de Bretagne occidentale, qu'il fait partie donc de l'Exorstom qui est actuellement l'IRD, qu'il a travaillé à la NASA et qu'il a été directeur du laboratoire d'océanographie physique en Nouvelle-Calédonie. C'est un laboratoire qui dépendait de l'Exorstom, nouvellement IRD. Joël Picot est membre de l'American Meteorological Society, de l'American Geophysical Union, de l'European Geophysical Union. Et enfin, il a publié de nombreux articles et a participé à de nombreux ouvrages. Voilà, Joël Picot, je vous laisse la parole pour une cinquantaine de minutes, après quoi un débat de 20 minutes pourra suivre. Je vous remercie.
Merci de m'accueillir à l'Université de tous les savoirs. Donc, je rappelle que l'Institut de recherche pour le développement, c'est le nouvel acronyme de l'ORSTOM, qui pendant 50 ans donc, était l'Office de recherche scientifique et technique d'Outre-mer. Et donc maintenant, je travaille près du CNES à Toulouse. Alors, je vais vous faire un petit plan de mon exposé. Alors, il faudra que j'apprenne à déplacer mes transparents. Ce format est un peu inférieur, mais bon, j'y arriverai. Je vais tout d'abord vous parler un peu de l'histoire d'El Niño, phénomène donc qui est parti des côtes du Pérou et qui en réalité concerne l'ensemble du Pacifique tropical. Ensuite, montrer que c'est un système qui couple l'océan et l'atmosphère. Et c'est pour ça qu'on lui a donné le nom entre scientifiques d'ENSO. ENSO qui est donc El Niño Oscillation Australe, Southern Oscillation en anglais, et que ce faisant, on a défini El Niño comme étant la phase chaude du phénomène, avec son opposé, la phase froide. Je vais ensuite vous parler donc des moyens d'observation et des programmes internationaux qui ont permis de comprendre un peu mieux les mécanismes d'El Niño, et surtout aboutir récemment à ce que ce phénomène soit prévisible 6 mois, voire 1 an à l'avance. Ensuite, je vais vous parler un petit peu des téléconnexions et de l'impact d'El Niño, puisque ce n'est un phénomène qui ne concerne pas que le Pacifique, mais qui concerne une grande partie du globe. Et je vais terminer cet exposé. Alors, El Niño, pour l'ensemble des communs, c'est que c'est un phénomène qui amène de la chaleur. Et effectivement, dans la roche médiatique des années 97, on a eu le droit à ce genre d'article. Alors attendez, je vais apprendre à me servir. El Niño arrive, l'été sera chaud. Alors ça, c'est une publicité qui a été... C'est un journal de Nouvelle-Calédonie. Alors évidemment, nous sommes dans un territoire français. Il faut se ruer sur les caves à vin, voire les congélateurs et les climatiseurs. Le seul problème, en réalité, c'est qu'on voit la méconnaissance du phénomène, c'est que El Niño dans le Pacifique ouest et surtout vers les régions de Nouvelle-Calédonie, se traduit par un léger refroidissement, 1 degré, voire 2 degrés de température de l'air. Donc, erreur journalistique, publicité mensongère, mais El Niño devrait amener du chaud. Et c'est bien ce qui se passe quand même. Si on regarde un peu l'histoire du phénomène, alors là, je vais faire un petit peu appel à... Évidemment, je vais vous montrer pas mal de graphiques scientifiques, je vais donc essayer de les expliquer. C'est les températures, une série de températures. Les Galapagos se trouvent ici, et c'est le long des côtes d'Équateur et du Pérou. Alors, je vais surtout nous concentrer sur la température de surface, SST, qui est donc de 1996 à 1998. Alors, en petit pointillé, c'est le cycle climatologique. C'est des mesures qui sont effectuées depuis une bonne trentaine d'années. On peut ainsi définir un cycle moyen par mois de janvier, etc. On voit en particulier que normalement, vers le milieu de l'année, les températures peuvent descendre à 18 degrés dans ces régions et augmentent légèrement un peu après Noël pour monter à 20 degrés et demi. Donc, c'est des eaux un peu de température pas très élevées. Par contre, l'El Niño, si on prend les relevés durant de 96 à 98, on s'aperçoit qu'en début 97, la température a commencé à croître et exploser, puisqu'elle est pratiquement atteint 30 degrés à Talara, ce qui faisait une température de pratiquement 9 degrés supérieure à la moyenne. Alors, par la suite, dans les graphiques que je vais vous montrer, on va s'intéresser à l'anomalie par rapport au cycle saisonnier. Donc, on va toujours raisonner en termes de déviation. Par exemple, ici, on parlera de 3-4 degrés de déviation, et là, de 9 degrés, par exemple. Alors, historiquement, El Niño est un phénomène que les pêcheurs péruviens connaissaient sous la présence d'une renverse de courant qui se produisait vers Noël, d'où le nom El Niño et Enfant Jésus. Ça amenait de l'eau chaude un peu dans la région, et ça se produisait régulièrement tous les 2, 3 ou 4 ans. Quand le phénomène était d'amplitude faible, ça attirait un petit peu de pluie, et c'était très bénéfique pour ces régions qui sont assez désertiques. À l'opposé, bien sûr, lorsque le phénomène, comme en 97, est devenu à son paroxysme, on est arrivé à des pluies qui faisaient 14 à 20 fois la moyenne. Donc les effondrements de villages, les pertes en vie humaine, etc., dont on a tant parlé au niveau médiatique. En fait, ce phénomène n'est pas du tout limité aux côtes d'Équateur et du Pérou, voire du Chili, mais c'est un phénomène qui couvre l'ensemble de l'océan Pacifique tropical. Alors là, je vais encore vous représenter des graphiques de température qui sont donc, je vous rappelle, des anomalies par rapport au cycle saisonnier. Alors si on prend les températures dans cette petite boîte rouge qui est en fait similaire à ce qu'on a vu auparavant en termes de déviation, ça c'est donc les déviations de température dans cette boîte de 1980 à 1998. On s'aperçoit effectivement que la température se met à croître, donc en rouge sur ce graphique, avec des températures en 1982-83 qui atteignaient 5 degrés de variation par rapport à la normale. Et à cette époque, en tant que scientifique, on avait déjà appelé ça El Niño 82-83, l'événement du siècle. Voyez ensuite que les températures ont une tendance à se refroidir, c'est ce qu'on va appeler la Niña, se réchauffer, et tous les 2 à 7 ans, ce genre de variation, avec le deuxième événement du siècle, 97-98. Donc il a fallu revoir un petit peu nos concepts d'événements exceptionnels. Alors si on s'intéresse aux zones géographiques plus au large, on a défini des boîtes qu'on a appelées Niño 3, voire Niño 4, beaucoup plus au large sur la bande équatoriale. On a un phénomène exactement similaire, à la fois en phase et d'amplitude un peu inférieure, mais on s'est aperçu depuis une bonne quarantaine d'années qu'El Niño est un phénomène qui en fait couvre l'ensemble de l'océan Pacifique tropical, avec une phase chaude et une phase de temps en temps froide, qu'on a appelé récemment la Niña. Alors en fait, le système est un système qui concerne à la fois l'océan et l'atmosphère. Et je vous présentais donc ce qu'on a appelé l'oscillation australe. Ce nom vient d'un Anglais, Gilbert Walker, qui dans les années du début du siècle était directeur du centre d'observatoire en Inde. Il a profité du fait qu'à l'époque, l'Empire britannique avait tout un tas de territoires autour de notre globe, et armé d'une équipe extraordinaire de techniciens, qui devait à l'époque, j'imagine, calculer tout ça avec des petits bouliers, a fait donc des statistiques sur l'ensemble des mesures effectuées dans l'Empire britannique. Et ainsi, il a montré qu'il y avait donc des changements de pression. Son but initial, c'était d'essayer de prédire la mousson de l'océan Indien, qui, juste avant qu'il soit directeur, avait causé plusieurs centaines de milliers de morts. Mais en fait, il a mis en évidence une oscillation de pression, grosso modo entre le nord de l'Australie et une région située entre Tahiti et l'île de Pâques. Alors là, ce sont donc des corrélations de ces champs de pression. Et on voit donc qu'il y a, si on prend donc les séries temporelles associées à ce genre de graphique, on voit en particulier que quand la pression augmente à Darwin, les couleurs ne sortent pas très bien, je suis désolé, c'est en rouge, elles sont de sens opposé à Tahiti. Par exemple, en 82-83, la pression a augmenté de 3 millibars à Darwin, et en même temps, elle était de sens opposé à Tahiti. Donc il existe visiblement un système de balançoire entre ces centres de haute pression situés au nord d'Australie et un centre de basse pression situé vers Tahiti, l'île de Pâques. Alors évidemment, ce genre de haute pression fait que les vents aussi oscillent, se mettent à croître, les alizés décroissent lorsque les pressions sont minimum à Tahiti et elles se mettent à croître lorsque le système de bascule rentre dans l'autre sens. Donc il y a vraiment un système oscillant et c'est seulement il y a une vingtaine d'années qu'on a découvert qu'il y avait en fait une correspondance entre ces variations de température et ces variations de pression au niveau du Pacifique tropical. En effet, si on compare la série de température, anomalie de température dans la partie est du Pacifique, c'est la série un peu similaire à ce que j'ai montré précédemment, avec encore El Niño et la phase froide de la Niña, etc. Ça, c'est de 1970 à 1997. Et si on reporte la différence de pression entre Tahiti et Darwin, c'est la courbe en dessous, on s'aperçoit qu'il y a une excellente correspondance. Lorsque les températures deviennent froides, l'index d'oscillation diminue, et vice-versa, et que la corrélation est quasi parfaite. Eh bien, et là, bon, on a reporté, mais je ne rentre pas dans les détails, parce qu'on en reparlera un peu plus tard. Donc, nous verrons tout à l'heure qu'en fait, c'est un système qui coupe l'océan à l'atmosphère. Revenons à l'océan, ma partie préférée, puisque je suis océanographe. Ici, j'ai représenté les températures de surface. C'est une climatologie sur au moins 60 ans de mesure. Et donc, vous voyez que on a reporté les températures donc, qui vont évidemment de 0 degré jusqu'à 30 degrés dans cette région-là. Qu'est-ce qu'on note immédiatement? C'est que les températures, évidemment les plus chaudes, sont dans les tropiques. Rien de surprenant, l'ensoleillement est maximum. Les températures varient entre 22 et 30 degrés dans les tropiques. Mais le plus intéressant, c'est qu'il y a une région où les températures sont toujours supérieures à 28 degrés. C'est une région qui recouvre tout l'ouest du Pacifique tropical et qui déborde largement sur l'océan Indien, avec un maximum absolu de 29 degrés, qui peut atteindre voire 31 degrés, dans cette partie située au large des Philippines et de la Papoue-Nouvelle-Guinée. Alors c'est un réservoir de chaude, c'est le réservoir de chaleur de notre système thermodynamique mondial. Vous imaginez facilement que des températures toujours supérieures à 30 degrés sur une superficie couvrant la taille de l'Europe et une profondeur en moyenne de 150 mètres, ça contient un nombre de calories extraordinaire. Alors au-dessus, évidemment, l'évaporation est maximum et dans ces régions, il pleut énormément. Nous verrons un peu plus en détail comment ça fonctionne. Alors, la machine thermodynamique est très simple. Vous avez un maximum d'eau chaude, c'est la bouilloire. Vous avez les condenseurs, c'est les pôles. Et il y a constamment un échange d'énergie à moitié par l'atmosphère et l'autre moitié par les courants marins. Et vous imaginez très facilement qu'il suffit de dérégler l'emplacement ou la température de ce réservoir d'eau chaude et c'est le climat de notre planète qui va être totalement affecté. Alors, je vais essayer de faire un zoom. Sur une représentation à trois dimensions. Alors, je vais vous expliquer un peu plus en détail. On reconnaît, enfin, du moins je le reconnais, un petit peu de l'Australie ici, la pointe de l'Australie. Ici, c'est la Californie, le retour Panama et quelque part par là, et un petit peu des côtes d'Amérique du Sud. Et on a représenté ce schéma à trois dimensions avec ce qu'on appelait la thermocline, dans notre jargon, c'est la séparation entre les eaux chaudes, donc température toujours supérieure à 20 degrés, et les eaux froides qui stagnent jusqu'à 4000 mètres de profondeur, qui descendent donc, par exemple, de 10 degrés jusqu'à 0 degré en profondeur. Alors, cette thermocline, vous voyez, est à fleur à la surface dans la partie est du bassin équatorial, environ 20-30 mètres de profondeur en moyenne, et de l'autre côté du bassin, atteint une profondeur d'environ 150 mètres. Alors, on retrouve le schéma que je présentais tout à l'heure, à savoir cette fameux réservoir d'eau chaude, qu'on a appelé en anglais « warm pool », avec, je vous l'ai dit, un maximum d'évaporation, et donc un système de mouvement ascendant avec énormément de pluie. Il pleut, par exemple, 3 à 7 fois plus qu'à Brest, ce qui est déjà pas mal. Alors, le système remonte en troposphère, perd son humidité, et un courant, un vent redescend, sec, qui repasse sur les côtes d'Amérique du Sud, qui dessèche la région, sur les Galapagos, et qui maintient les alizés de nord-est et de sud-est. Donc vous avez un système de vent. Alors ce système de vent, dans la partie est du bassin, on va penser que ça va créer un courant directement dans le sens du vent. Erreur, la rotation de la Terre est là, et tous les mouvements sont déviés à droite. Si je mets à marcher dans ce sens-là, je vais légèrement tourner à droite puisque je suis dans l'hémisphère nord. Mais ça, évidemment, la force est tellement faible, je ne m'en rendrai pas compte. Mais les masses d'eau, elles, le sentent très bien, donc sont déviées à droite dans l'hémisphère nord et à gauche dans l'hémisphère sud. Cela crée un petit vide. La nature a horreur du vide. Et donc, il y a avoir donc aspiration d'eau en profondeur. C'est le phénomène qu'on a appelé upwelling, qui amène des eaux froides, riches en matières nutritives en surface, et qui fait qu'il y a beaucoup de production dans ces régions, beaucoup de poissons sur les côtes d'Équateur, de Chili, de Pérou, de Californie, et on trouve ça dans pas mal de régions du monde. Donc des eaux un peu froides dans cette région, les courants sont poussés par ces vents, et sur le cheminement reçoivent un maximum de chaleur de l'atmosphère, nous sommes dans les tropiques bien sûr, et au cours de leur parcours, se réchauffent jusqu'à 30 degrés. Et il y a donc accumulation d'eau dans la partie ouest du bassin, avec, je vous l'ai dit, des eaux toujours supérieures à 30 degrés. Donc vous avez vraiment le vent qui souffle, qui pousse ces masses d'eau vers la partie ouest du bassin. Et physiquement, il y a accumulation d'eau. C'est ce qui explique donc que la thermocline est enfoncée. Et le niveau de la mer, lui, monte d'un mètre. Il y a un mètre d'écart entre les Galapagos et la partie ouest du bassin. Donc vous avez votre pente ici, un vent qui pousse. Qu'est-ce qui se passe durant El Niño? Votre vent, pour une raison qu'on expliquera tout à l'heure, se met à ralentir. Déferlement de ces masses d'eau vers l'ouest. Ces masses d'eau se déferlent vers l'ouest, et évidemment les masses de convection associées, donc se déplacent vers l'ouest. Les régions comme l'Indonésie, Philippines, Papouasie-Nouvelle-Guinée, où il pleuvait énormément, deviennent sèches. Et à l'opposé des régions, les îles donc, du Pacifique central, voire les côtes de Pérou, Chili et de Californie, il se met à pleuvoir énormément. La thermocline, quant à elle, pivote, puisque les masses d'eau se répandent dans la partie est, et le bassin se décharge. Alors, ce qui est très intéressant dans ce phénomène, c'est un phénomène couplé. Je vous ai dit que dans ce genre de figure, c'est les vents qui créent les courants, qui donc créent la différence de température entre la partie est et la partie est et la partie ouest, mais c'est aussi la différence de température de surface de l'eau qui crée les vents. Donc c'est un peu un système qui se mord la queue, on ne sait pas qui fait quoi. Les vents créent les courants créent les changements de température créent les vents. Donc c'est ce qu'on appelle un système couplé entre l'océan et l'atmosphère. Mais le problème, c'est que l'atmosphère répond beaucoup plus rapidement alors que l'océan, lui, a une capacité thermique nettement plus importante. Pour revenir à la condition opposée qu'on a appelée La Niña, c'est un peu l'accentuation du système moyen. À savoir, les alizés sont beaucoup plus forts que normal. Donc le pôle équatorial, il fait relativement froid. La warm pool, le réservoir d'eau chaude, est poussé à son maximum. Et la zone de convection, elle, est poussée vers l'Indonésie. Donc sécheresse marquée dans ces régions et thermocline qui s'enfonce profondément sur la partie ouest et qui affleure la surface dans la partie est. Alors, tout ce système de couplage a été mis en évidence dans les années 60. Et c'est pour ça que nous autres sonographes, on devenait intéressant au niveau climatique, et on a mis en place donc un système d'observation de l'océan, donc pour essayer de suivre et de comprendre El Niño. Vous voyez donc, alors on va revenir au, à une taille. Voilà, nous sommes donc prêts à observer El Niño qui amène du chaud, malheureusement, dans notre dos. Plus sérieusement, en 1985 a été lancé un programme de 10 années au niveau international pour TOGA, qui veut dire donc océan tropical et atmosphère globale. Donc il veut vraiment bien dire ce qu'il veut, à savoir l'interaction entre les zones superficielles de l'océan tropical et l'atmosphère globale. Alors, c'est un programme international qui a concerné près de 1000 personnes pendant une dizaine d'années, chercheurs, techniciens, nous verrons plus tard même aviateurs, marins de tout genre. Et en particulier, nous avons mis l'accent sur le Pacifique tropical, puisque c'était là que se développaient les phénomènes les plus importants au niveau mondial, à savoir El Niño. L'océan Indien et l'Atlantique tropical ont été malheureusement un petit peu délaissés dans ce programme qui initialement devait concerner les trois océans. Maintenant, il y a de plus en plus d'observations dans ces océans, Dieu merci. Alors, on a par exemple équipé les bateaux marchands de sondes à tête perdue. Les militaires avaient beaucoup utilisé ce genre de matériel. À 10-20 nœuds, vous pouvez lancer une petite sonde avec un tout petit fil très fin, ce qui vous donne donc un profil de température de 0 à 700 mètres. La sonde est perdue, mais ce qui ne coûte pas très cher, $50 le profil. Mais l'intérêt, c'est que l'information du profil de température est transmise en temps réel par les satellites, par le système Argos. On a aussi largué un certain nombre de bouées dérivantes. Alors, c'est les petits tirets là. On a donc sur ces bouées dérivantes les températures de surface et le système Argos permet d'avoir leur position, donc on en déduit les courants marins. On a équipé tout un ensemble d'îles du Pacifique Ouest, et Dieu sait s'il y en a, soit remis en état certains marégraphes, soit équipé ceux qui marchaient déjà bien, de systèmes de transmission en temps réel. Donc c'est la première fois qu'on mettait en place un système d'observation au niveau océanique au même titre que les météorologues. Et surtout, on a mis en place environ 70 bouées qui sont ancrées par des fonds de 3000 à 5000 mètres de profondeur, selon la profondeur de l'océan. Et ça a été mis progressivement en place de 1985 à 1994. Ce sont des bouées qui pèsent environ près d'une tonne, ancré avec des roues de chemin de fer, et ce qui fait que tout l'océan maintenant est pavé de roues de chemin de fer. C'est le moyen économique d'un ancrage. On récupérait des roues de chemin de fer de Seattle, et à chaque fois qu'on relève ces mouillages, à savoir tous les 6 mois, on largue les roues, et dans 1000 ans, la question se posera pourquoi il y avait plein de roues de chemin de fer au fond de l'océan Pacifique. Parallèlement aussi, on a fait beaucoup de campagnes océanographiques. Il a été dit que j'étais responsable du laboratoire de sonographie physique de l'Orstom en Nouvelle-Calédonie pendant cette période de TOGA, et notre équipe à elle seule a effectué un total de 23 mois de mer avec les bateaux de la flotte nationale sur ces 10 années de programme. Donc je suis ce qu'on appelle un océanographe aux pieds mouillés. Voilà ce genre de coopération qui se fait toujours dans la bonne humeur. Ce sont des programmes internationaux passionnants, mais il faut dire aussi que quand même de travailler avec des collègues américains, australiens, japonais, chinois, il y a des fois de solides ententes qui se créent. Et voilà un exemple de la mise en place de du premier mouillage France-US numéro 1. Vous voyez, ce système est ancré par un câble pendant 4000 mètres. Et vous voyez que le responsable du réseau américain et un de mes collègues semblent fort joyeux d'avoir installé ce premier mouillage. Alors, en plus de tous ces réseaux d'observation, on a eu la chance de disposer de satellites qui mesuraient la topographie de la mer. Alors, au départ, en 85, les cinq premières années du programme TOGA, 1985 à 91, on a eu la chance d'avoir accès aux données du satellite de l'US Navy, GEOSAT. Et ensuite, a été lancé un satellite franco-américain TOPEX Poséidon, coopération entre le CNES et la NASA. Voici une belle image de ce satellite qui nous a coûté peut-être une fortune, mais qui a l'avantage de faire des mesures d'une qualité extraordinaire. Pensez que cet appareil qui vole à 1300 km d'altitude, à 5 à 6 km par seconde au niveau de sa trace au sol, mesure par un radar les variations de distance à 2 cm près. C'est un exploit technologique. Je ne vais vous pas parler de toutes les corrections qu'il a fallu faire, mais le résultat est que, par exemple, lorsqu'il y a le El Niño, il y a une augmentation de niveau de la mer de 30 cm, eh bien, cet appareil détecte immédiatement les variations de dilatation des masses d'eau et, ce faisant, nous permet de suivre l'événement El Niño ou son inverse, la Niña. Ce succès de cet appareil, il était prévu pour fonctionner 3 ans. Il a été lancé en août 1992 et il fonctionne encore très bien. Donc, au point de vue technique, scientifique et financier, c'est largement rentabilisé. Et c'est pour soi que nous allons aussi lancer, toujours avec coopération entre le CNES et la NASA, une série de satellites moins chers, série appelée JASON. Donc, parallèlement, nous avons donc à ces programmes internationaux. Je vous ai parlé de TOGA, donc programme qui a duré 10 ans de 85 à 94. On s'est aperçu que le Pacifique Ouest était très important et c'est pour ça que pendant une bonne année, on a mis, comme on dit, le paquet sur la partie ouest du bassin. Alors là encore, vous avez un petit bout de l'Australie, Darwin ici. Ici, c'est la Papoue-Nouvelle-Guinée. Évidemment, l'Indonésie et les Philippines quelque part par là. Alors, pendant 4 mois, de novembre 1992 à mars 1993, il y a eu 12 navires de recherche qui ont donc été installés dans cette petite région. 7 avions de recherche, la moitié est basée à Honiara et l'autre moitié est basée à Townsville, en particulier parce que des avions tels que le DC-9 de la NASA nécessitaient une longue piste d'atterrissage, et surtout l'ancien avion espion U-2 qui depuis longtemps a été transformé en avion de recherche. Il peut naviguer, voler à 20 km d'altitude, donc bien au-dessus de ces zones nuageuses. Une opération extraordinaire, 700 personnes ont donc travaillé dans cette région. Moi-même j'étais basé à Townsville, un véritable centre opérationnel, d'autres en Niara. Malheureusement, certains ont même chopé un peu de malaria, mais bon, ça, c'est le lot de tout scientifique de terrain. Quand on n'a pas le mal de mer, on a des maladies à terre. Et donc, vous voyez que ce programme a été un franc succès et on continue à travailler sur ces données. Là, au point de vue échange de données, c'est une coopération exemplaire dans la mesure où on ne garde pas nos données à nous-mêmes, on les échange immédiatement avec nos collègues chinois. Donc, il y a eu des Chinois, des Taïwanais, Australiens qui ont travaillé. TOGA est terminé et la problématique d'El Niño aussi est intéressante, mais a débordé son cadre. Et on a créé ce qu'on appelle donc un nouveau programme, mais à une échelle plus grande, CLIVAR pour variabilité climatique et prédiction, qui va durer jusqu'en 2010, avec une composante qui ressemble un peu à TOGA, qui s'intéresse à l'interaction entre l'océan atmosphère, voie celle de la Terre, et des programmes dont mes collègues ont parlé ou vont parler, sur des variations à plus long terme, de l'océan en particulier, sur des variations de 10 ans, voire de 100 ans. Il faut savoir que ce que je vous montre actuellement, c'est des variations sur des périodes de 2 à 7 ans, qui concernent une grande partie du globe, c'est le phénomène El Niño, et des variations tropicales. Si on veut étudier les variations climatiques à une échelle beaucoup plus importante, 10 ans, voire 100 ans, il faut s'intéresser au renouvellement des eaux profondes. Les eaux chaudes remontent naturellement vers les pôles, par le Gulf Stream par exemple, ou le Kuroshio. Arrivées bien au nord, elles sont refroidies, à tel point qu'à un moment donné, elles plongent, se répandent en profondeur, alors soit à 500 mètres, soit à 2000 mètres, voire dans les plaines abyssales, se chargent entre-temps de tout ce que l'humanité a pu déverser comme CO2 et autres choses très agréables. Et à un moment de leur histoire, vont remonter 100 ans, voire 1000 ans plus tard, libérant ainsi ces sources de CO2 qu'on leur a soigneusement déposées dans l'océan. Et c'est pour ça que d'autres collègues travaillent sur ces problèmes de variation climatique à long terme. Mais pour l'instant, je reste attaché à mon cher El Niño. Et j'essaie de vous expliquer un petit peu, très schématiquement, quelques mécanismes. Alors, pour cela, je vais me concentrer sur l'El Niño de 1997, qui a vraiment démarré en mars 1997. Alors là, ça représente les vents de surface qui ont été obtenus par un satellite américano-japonais. Et on voit les alizés de nord-est, schéma classique, et de sud-est, qui poussent donc ce réservoir d'eau chaude. Et on s'est aperçu qu'en mars 1997, il y avait une renverse extraordinaire de vent qui atteint plus de 15 mètres par seconde, près de 30 nœuds, et ce pendant une huitaine de jours. On voit, alors en termes d'anomalie, c'est encore plus, ça doit être de l'ordre de 40 nœuds de vent, ce qui fait que ça a créé donc des changements au niveau de l'océan de façon importante. Alors, grâce au satellite TOPEX Poséidon, on a pu mesurer ce genre d'informations. Et là, je vous montrais donc des déviations de niveau de la mer par rapport à une moyenne. Alors, mars 97, votre coup de vent va pousser les eaux vers le bas. Vous avez parlé de l'open équatorial. Dans ce mouvement-là, il y a convergence des masses d'eau avec les rotations de la Terre, donc à droite ici, à gauche ici. Ça accumule l'eau, ça pousse en profondeur, et ça crée donc une élévation de la... Donc ça enfonce la thermocline, ça accumule l'eau chaude, et ça se traduit par 20 cm d'augmentation de la surface de la mer. Alors l'océan équatorial aussi est très particulier, il a une dynamique très particulière, dynamique dite dans le jargon dynamique équatoriale. Et là aussi, c'est dû au fait qu'il y a inversion des rotations de la Terre, des sens des rotations entre le nord et le sud. En quelque sorte, l'équateur agit comme un mur. Dès que vous créez un phénomène, bon, vous tapez dans l'océan, ça crée une propagation au niveau de la thermocline, et c'est comme une jetée, le phénomène, la vague suit le bord d'une jetée, et vous avez un phénomène qui se propage piégé à l'équateur et qui met environ... 3 mois pour atteindre les côtes est du système. 200 km par jour, 3 mètres par seconde, grosso modo de propagation. Et ainsi, un coup de vent situé dans la partie ouest du bassin va avoir des répercussions 3 mois plus tard de l'autre côté du bassin, avec en particulier une augmentation du niveau de la mer de 30 cm au niveau des Galapagos, un enfoncement de la thermocline. Et on arrête complètement le pôling équatorial, plus de renouvellement de masse d'eau, l'eau devient chaude, il se met à pleuvoir dans ces régions, et les poissons se retrouvent, poissons d'eau plus froide, se retrouvent dans des zones extrêmement chaudes, meurent ou disparaissent, avec les conséquences qu'on imagine au niveau des pêches, au niveau aussi des oiseaux, etc. Alors ça, c'est le phénomène issu du Pacifique Ouest, dont la conséquence est, au niveau océanique et atmosphérique, se fait situer dans l'Est. Par contre, le réservoir d'eau chaude aussi est un phénomène plus simple à comprendre. Il se déplace. Alors là, je vais vous parler donc du déplacement de ce réservoir d'eau chaude. C'est les températures de surface. Attendez, voilà, c'est pas très clair. Nous sommes quelque part ici vers le Papou-Nouvelle-Guinée, Philippines. Et ici, vers les Galapagos, c'est les températures de surface dans la bande équatoriale entre 4 degrés nord et 4 degrés sud. On s'aperçoit donc que le réservoir d'eau chaude, c'est température supérieure à 29 degrés. En réalité, durant El Niño, ce réservoir, on l'a dit, se déplace vers l'est et durant la phase opposée, se déplace vers l'ouest. Donc c'est un El Niño, La Niña, El Niño, La Niña. Ici, j'ai représenté l'oscillation australe, donc la différence de pression entre Tahiti et Darwin. Et si je reporte ce petit graphique par transparence sur le bord est de la Whampoa, faites attention, je suis en train de comparer comme des différences de pression avec des déplacements en kilomètres, mais la correspondance en termes de corrélation et de phase est extraordinaire. Vous voyez qu'il y a effectivement une parfaite ressemblance entre les déplacements d'El Niño, l'augmentation, donc diminution, l'augmentation de l'oscillation australe, etc. Donc, on voit très bien que El Niño et La Niña se traduisent par des déplacements des masses d'eau chaude sur 3 à 4 000 km, en particulier en 81-83 et 97-98 que je n'ai pas représenté, il atteignait la partie est du bassin. Alors c'est ce que je montre dans le graphique suivant. Ça, c'est les températures de surface en novembre 1997. Là encore, un petit peu d'Australie, la Papoue-Nouvelle-Guinée et Panama et l'Équateur. Alors, l'événement était tellement important en novembre 1997 que le réservoir d'eau chaude, eh bien, s'est quasiment déplacé, répandu sur l'ensemble du bassin. Alors ça, c'est pour la surface. Maintenant, si on s'intéresse aux relevés fournis par ces 70 bouées ancrées qui transmettent leur information en temps réel, eh bien, ça, c'est les conditions normales que je vous ai déjà représentées. Là encore, on est donc la partie ouest du bassin, vers les Philippines, là, vers les Galapagos. La thermocline proche de la surface, le réservoir d'eau chaude avec une accumulation très importante d'eau. Eh bien, en novembre 1997, toutes les masses d'eau étaient donc de l'autre côté, et on voit que le réservoir était dans cette région, et la thermocline avait quasiment pivoté. Donc vous imaginez qu'on ne déplace pas des masses d'eau d'une taille de l'Europe avec, sur une profondeur de 100 mètres en l'espace de quelques jours. Ça va mettre des mois, des années pour se déplacer. Et c'est l'inertie thermique de cet amoncellement colossal d'eau qui crée la mémoire du phénomène. L'atmosphère a peu de mémoire. Vous regardez par exemple en novembre et les dépressions qui arrivent sur la Bretagne, vous avez une carte de météo, belle dépression qui nous arrive dessus. Les météorologues peuvent prévoir le temps 2, 3, maximum 4 jours à l'avance, parce que ces dépressions, une fois qu'elles arrivent sur l'Europe, elles se dissipent, c'est un système extrêmement chaotique, turbulent, et donc on n'a pas de mémoire du système. La mémoire de l'atmosphère n'est que de quelques jours. Pire encore, c'est tellement chaotique qu'on dit qu'un effet papillon, un coup, une aile de battement de papillon, va créer un cyclone à l'autre bout du monde. Alors que l'océan, lui, a une mémoire extraordinaire. On ne peut pas déplacer ces masses d'eau en l'espace de quelques jours, il faut des années. Et comme l'atmosphère, c'est un système, je vous ai expliqué, qui est couplé, le vent crée les courants créent les températures de surface, mais c'est l'océan qui a la mémoire du système. Et ainsi, on a pu montrer que le phénomène El Niño, grâce à cette fameuse mémoire, était prédictible 6 mois, voire 1 an à l'avance. Et ça a été le grand succès du programme TOGA. D'abord, bien étudier la mécanique d'El Niño. Deuxièmement, montrer qu'il y avait effectivement une mémoire du système couplée à son atmosphère. Et troisièmement, montrer qu'il était prédictible 6 mois à 1 an à l'avance, avec bien sûr des erreurs. Alors voilà un exemple de prédiction qui a été effectué par le Centre européen à Reading. Alors là encore, donc, j'essaie de vous expliquer un peu ce genre de graphique. C'est les températures dans la partie est, les anomalies de température dans la partie est du bassin, donc les déviations. En bleu, et on va de octobre 96 à janvier 97. En bleu, c'est ce qui a été observé après coup. Et en rouge, ce sont les essais de prédiction donc, qui ont été faits, par exemple, en janvier 97. On a fait des prédictions. Pour cela, on a utilisé des modèles dits couplés. On a pris un modèle océanique perfectionné et on l'a couplé à un modèle atmosphérique. Et ce système, donc, a des problèmes techniques, nécessite des ordinateurs très importants, mais actuellement, quand même, le système marche pas si mal que ça, puisqu'on arrive quand même, vous voyez, à faire certaines prédictions. Alors, on change les conditions initiales, c'est pas le système de papillon, mais disons qu'on change les conditions initiales, mais l'océan ayant tellement d'inertie, eh bien, les courbes ne divergent pas. Il n'y a pas d'explosion du système. Vous voyez qu'on retrouve grosso modo un ensemble. Et on a pu dire qu'en janvier 1997, il y aura un El Niño, mais d'intensité relativement normale. Erreur, il avait atteint entre-temps des valeurs très importantes. Ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, on n'avait pas, dans ces modèles aussi sophistiqués qu'ils sont, on n'avait pas inclus un tas de paramètres tels que ces coups de vent. Donc, on voit qu'il y a encore beaucoup à faire Et c'est seulement en mai 1997 que l'on a pu prévoir l'El Niño en disant qu'il sera maximum en la fin de l'année 97. Donc, succès d'une certaine manière, on a pu prévoir El Niño, mais on n'est pas encore au point. Il nous faut encore plus d'observations, il nous faut améliorer nos modèles, encore beaucoup de travail, et pour essayer de montrer qu'El Niño sera prévisible. Alors, encore une autre carte, c'est ce qui a été prédit en juin 1997 par un autre modèle, c'est un modèle couplé de la NOAA des États-Unis. Vous voyez ce qui était donc prévu pour décembre 1997, c'est ce qui a été fait en juin 1997, et voilà ce qui a été observé. Donc effectivement, on a pu, à partir de mai-juin 1997, dire qu'il y aura un El Niño catastrophique pour la fin de l'année. Mais c'est quand même un peu tard, disons, d'annoncer ça. Il aurait fallu le prévoir quand même un peu plus tôt. Alors, on peut aussi prévoir dans ces modèles certaines tendances de précipitation. Voilà un exemple de variation de précipitation qui a été prédite en décembre 1997 pour la période février-mars-avril 1998. On voit en particulier qu'il y a une zone de pluie sur toute cette région, une sécheresse très importante sur les régions de Philippines-Indonésie. Et ce qui explique la sécheresse n'a pas pu éteindre les incendies qui ont été faits de main d'homme dans ces régions. Vous savez que pour déforester, historiquement, les paysans font du feu et que ça a été évidemment entretenu par toutes ces grandes sociétés qui veulent déforester toutes ces régions très intéressantes économiquement dans cette région. Donc le feu aurait dû s'éteindre à la suite de l'arrivée des pluies. Il n'y a pas eu de pluie et il y a eu ces fumées toxiques qui ont été catastrophiques pour toutes ces régions de l'Asie du Sud-Est. Alors voilà ce qui a été prévu et voilà ce qui a été observé entre novembre 1997 et avril 1998. Quelques exemples. À Païta, au Pérou, il pleut environ 10 à 15 cm d'eau par an et ça atteint, je crois, 11 ou 12 mètres. Enfin, donc quelque chose de faramineux. Jakarta, où il pleut énormément, il a plu que moitié moins. Je vous l'ai dit, ça suffit pour effectivement empêcher d'éteindre les incendies. Alors, comment le système se produit ? Eh bien, vous comprenez très facilement qu'il y a déplacement de ces masses d'eau chaude et donc de la convection atmosphérique. Donc, c'est facile à comprendre au niveau Pacifique. On déplace la bouilloire et tout ce qui est au-dessus, on tire, il fait sec et on amène, il pleut. Mais au niveau mondial, c'est un peu plus compliqué. Et pour cela, il faut faire appel à des notions. Les courroies de transmission sont multiples. Et je vous en parlais d'une, qui est le jet stream subtropical. C'est un vent qui se situe généralement vers les 5 à 15 km d'altitude et qui est extrêmement important, puisque quelquefois, c'est ce qui fait qu'un avion, dans un sens ou dans l'autre, peut gagner ou perdre quelques heures sur des traversées. Alors, la position de ce jet stream, grosso modo, c'est la ligne blanche ici. Durant El Niño, à cause de cette accumulation d'eau chaude dans la partie est du bassin tropical, ce jet stream est attiré vers le sud. Ce faisant, toutes les dépressions de l'hiver de l'hémisphère nord sont attirées vers le sud, et c'est pour ça qu'en Californie, on a un temps hivernal durant El Niño, avec plein de dépressions, des coups de vent, un surf extraordinaire et beaucoup de pluie. À l'opposé, durant la Niña, la phase froide, eh bien, ce jet stream est remonté beaucoup plus au nord et on attire donc des masses d'air chaudes et humides vers Seattle, par exemple. La Niña de 98, le dernier de 98 de l'année 2000, et il a plu à Seattle deux fois plus que normal. Et Seattle, en termes de pluie, c'est aussi important qu'à Brest. Donc, ce n'était pas très agréable de vivre cet hiver à Seattle. Alors, autre conséquence sur les cyclones. On en a beaucoup parlé. Les cyclones, il leur faut au moins 28 degrés de température de surface pour se nourrir. Condition nécessaire, mais pas suffisante. Il faut beaucoup plus de choses pour que les cyclones se propagent, se développent, etc. Mais si l'eau ne fait pas 28 degrés, les cyclones disparaissent. Si vous déplacez les masses d'eau chaude dans cette région vers l'ouest, eh bien malheureusement, les régions cycloniques dans le Pacifique Ouest, elles aussi sont attirées par ces masses d'eau chaude. Et c'est ce qui fait qu'à Hawaï et en Polynésie française, quand il y a des grands El Niño, malheureusement, il y a des cyclones dans des régions qui ne sont pas préparées à subir des cyclones. À l'opposé, durant El Niño, les cyclones qui viennent d'Afrique et qui remontent vers les Antilles et les côtes d'Amérique de l'Est sont stoppés. Stoppés ou réduits en nombre. Alors, un conseil, si vous voulez prendre des vacances durant la saison cyclonique de Polynésie française ou de Martinique et Guadeloupe, choisissez bien votre... allez sur le web, regardez les prédictions d'El Niño ou de la Niña. Si c'est El Niño, si c'est un fort El Niño, n'allez pas dans la Polynésie ou à Hawaï. Par contre, Martinique-Guadeloupe, c'est quasiment garanti. C'est du 95% de chance d'avoir aucun cyclone. À l'inverse, la Niña, vous êtes tranquille. Hawaï et Tahiti, c'est garanti. Vous voyez donc, il y a quand même des côtés positifs de ces El Niño, mais aussi beaucoup de côtés négatifs. On en a beaucoup parlé au niveau médiatique. Juste un bref rappel sur l'Afrique. Hein. Bon, les cyclones, j'en ai parlé. Il y a eu des sécheresses dramatiques de juillet à septembre 1997 en Afrique de l'Ouest. Des précipitations terribles en Kenya, amenant des maladies, choléra, dans des régions évidemment pas équipées, en Ouganda, Somalie. Et des températures anormalement élevées sur la plupart des régions de l'Afrique australe. C'est un exemple de conséquence. Si vous voulez, on pourra en discuter un peu plus au moment des discussions. Juste un bilan bref de l'El Niño de 1997. On en a tellement parlé dans les journaux que je ne vais pas trop insister. Les estimations sont très difficiles. Hein. On a estimé ça à 34 milliards d'euros. Mortalité, on a là encore estimé 22 000 morts par El Niño de 1997-1998. 540 000 personnes atteintes de maladies diverses, 5 millions de personnes déplacées ou sans abri, et en termes de surface touchée par le feu, les inondations, la sécheresse, 22 millions d'hectares. Alors là, je vais essayer de faire un petit zoom sur... Je ne suis pas encore au point au niveau de cette technique. Alors ça, c'est une statistique un peu dramatique, au sens, c'est la comparaison de la mortalité, c'est en bleu, et le coût en millions de dollars en rouge. Alors, pour l'Amérique centrale, l'Amérique du Nord, évidemment, pays très développé, Amérique centrale, quand même, un peu moins, eh bien, la mortalité n'a pas été très importante, mais les coûts, très importants. Et à l'inverse, l'Afrique, vous voyez que les pays, malheureusement, qui ne sont pas prêts à réagir à ces événements, eh bien, une mortalité catastrophique et un coût, évidemment, relativement faible. Un village de huttes qui est détruit par des pluies intenses, ça ne coûte rien, malheureusement. Et malheureusement, c'est le problème d'El Niño, c'est qu'en fait, il touche préférentiellement les zones tropicales. Alors ça, c'est le côté, évidemment, pas rassurant du phénomène, mais il faut savoir que pendant ce temps-là, les régions comme le Canada et le nord des États-Unis ont baigné dans un climat d'hiver et très agréable. À savoir... Les notes d'électricité et de gaz, j'ai travaillé à la NASA donc, ces deux dernières années, et au niveau électricité et gaz, l'hiver a été extraordinaire. Quand je suis arrivé, il y avait une pelle extraordinaire à ramasser la neige. On n'a pas eu un centimètre de neige pendant 1997-1998, et 30% d'économie pour l'ensemble des populations en termes de chauffage. Donc c'est important. Autre application... la récolte donc produits agricoles sur le nord-est du Brésil. Alors, le nord-est du Brésil, c'est une région... Hop, je vais diminuer. À la troisième conférence, je serai au point. Alors, ça, c'est un exemple. Ça, c'est ce qu'il pleut normalement. C'est la ligne en haut, 100% de pluie normale. En 86-87, il y a un ligno. On n'était pas capable à l'époque de le prévoir. Donc, il a plu environ 65% de la normale. Et au niveau production agricole, ça a été la catastrophe. 91-92, on a pu prévoir El Niño. Vous voyez donc qu'il a plu pratiquement moins, légèrement plus qu'en 86-87. Mais grâce à des changements de culture, à des choix de libérer de l'eau de barrages hydroélectriques pour arroser, l'agriculture est presque arrivée à la normale. Donc vous voyez que l'application des prédictions est très importante, et donc il y a plein de choses à faire au niveau... Nous, scientifiques, on travaille sur les mécanismes, sur les prédictions, et d'autres équipes travaillent sur les moyens d'application de ces phénomènes. Malheureusement, on a encore beaucoup de choses à faire, et on espère mieux comprendre El Niño, ses mécanismes, mais aussi on a affaire à un système qui peut être perturbateur, à savoir le changement climatique global. Si je reprends les températures de surface précédentes, alors c'est encore là les températures, là encore on se trouve du côté des Philippines, les Galapagos, c'est les températures moyennes, et on voit en rouge la warm pool de 1950 à 1992. On s'aperçoit très vite qu'elle se met à croître. Au fil des années, la warm pool, le réservoir d'eau chaude, devient de plus en plus important. Et si on reporte ici les variations de l'oscillation australe, on s'aperçoit dans les années 50-60, il y avait alternativement El Niño, La Niña, tous les 3 ans, grosso modo. Eh bien, depuis 1976, nous sommes en période d'El Niño de plus en plus rapprochée et surtout de plus en plus intense. J'ai parlé de El Niño de 82-83, et malheureusement, il y a eu celui du siècle qui a été dépassé avec celui de 97-98. Alors, une simple corrélation, et je vais bientôt terminer là-dessus. Ça, c'est les températures donc supérieures à 28 degrés sur la partie ouest du bassin, en 70. Et ça, c'est les années de vent à 10 km d'altitude. Donc, un réservoir de taille normale et... quelques événements dans ces régions en termes d'anomalies. Les années 80, le réservoir augmente en taille, beaucoup plus de vent, d'anomalies de vent en altitude. Alors 90, c'est de pire en pire. Le réservoir atteint des largeurs exceptionnelles et les vents. Alors ce n'est que des corrélations, mais de là à dire que l'augmentation de chaleur due à l'effet de serre intervient, eh bien, des équipes travaillent là-dessus. Pour cela, on fait des recherches historiques, on étudie l'histoire d'El Niño pour essayer de déterminer s'il y a eu des tendances naturelles à des variations aussi importantes depuis une trentaine d'années. Donc, on regarde la taille des coraux, on regarde, d'autres équipes travaillent sur la taille des coupes des grands arbres et regardent les croissances. Donc, refait des histoires d'El Niño sur 500 voire 1000 ans, la taille, les glaciers tropicaux, etc. Et ce faisant, on espère voir, pour l'instant, on n'a pas trouvé de traces dans les 500 dernières années de phénomènes aussi rapides que depuis 20 ans. D'où notre doute en tant que scientifique, est-ce qu'on n'est pas en train de jouer aux sorciers et arriver à un système irréversible où on aurait de plus en plus d'événements catastrophiques de systèmes de type El Niño. Alors pour ceux qui vont prendre des vacances en août, septembre, octobre et novembre, je vais les rassurer. Voici les prévisions d'El Niño qui ont été faites donc, le mois dernier jusqu'à la fin de l'année. Nous allons vers un système normal. Vous voyez, on a La Niña et toutes les prédictions semblent dire qu'on ira vers un cas normal. Donc, pas de crainte à avoir si vous êtes dans les tropiques pour la fin de l'année. Et là, j'ai reporté hier les températures de surface, là aussi envoyées par satellite, de l'ensemble des bouées, 70 bouées du Pacifique. Ça, c'est les conditions moyennes. Et ça, c'est l'anomalie par rapport à la normale. Vous voyez qu'on est dans le jaune, donc aucune variation. Donc, on tourne vers un état moyen. On était en La Niña depuis 2 ans. Et nous sommes donc dans un état stable qui va peut-être conduire à un El Niño, on ne sait pas. Je vais conclure avec quelques minutes de retard. Je m'en excuse. El Niño est maintenant connu comme un ensemble couplant l'océan Pacifique tropical à l'atmosphère globale. Pour ça qu'on l'a appelé ENSO pour El Niño oscillation australe, avec une phase chaude, El Niño, et une phase froide, La Niña, qui se répète tous les 2 à 7 ans. Grâce au programme international TOGA et au réseau d'observation in situ et satellitaire, les mécanismes d'ENSO commencent à être connus. Bien retenir que c'est les couches superficielles de l'océan Pacifique tropical qui forment la mémoire du système. Si j'ai un message à vous faire passer, j'espère que c'est celui-là. Et c'est ce qui fait qu'on a permis de prévoir ces interactions aux atmosphères 6 mois, voire 1 an à l'avance. Mais vous avez vu, avec encore beaucoup d'erreurs, il y a encore beaucoup de progrès à faire, et la nature aussi reprendra peut-être ses droits. Il est possible donc d'anticiper les conséquences néfastes, mais attention, El Niño aussi, je vous l'ai dit, a des conséquences avantageuses. On en parle peu. Et la bourse, elle, sait comment jouer là-dessus. Sur l'ensemble de la planète, et plus particulièrement sur la zone la plus sensible climatiquement et malheureusement humainement, de l'Afrique, ceinture tropicale, et donc où il est beaucoup plus difficile de déplacer des populations en Afrique que dans nos régions. Les recherches sont poursuivies pour améliorer et appliquer les prédictions d'ENSO. Mais, grosse question, le changement climatique global serait-il à l'origine de l'augmentation de la fréquence et de l'intensité d'El Niño? Alors, El Niño est un phénomène extraordinaire. Je vous l'ai dit, travaillant avec des équipes internationales, de toutes les nations, c'est un phénomène qui m'a beaucoup passionné. Ça fait plus de 15 ans que je travaille là-dessus. Et je ne suis pas du tout comme ce petit légionnaire, j'en ai pas marre d'El Niño.
Bon, il y a eu des pluies diluviennes sur Haïti au même moment où il y a eu le phénomène d'El Niño. Et sur certains journaux, on s'est demandé si le phénomène ne dépassait pas les Andes. Alors c'est la question que je vous pose.
Oui, non, il y a aussi, attention, il y a aussi la formation de cyclones. Je vous ai parlé que El Niño favorisait la formation de certains cyclones. Mais attention, hein, ça dépend de l'année, je ne me rappelle plus à quelle période. On est passé très rapidement en 1998 d'un phénomène El Niño très important à sa phase opposée, la Niña, et cela en l'espace de 3 à 4 mois. Donc il y a eu un passage où effectivement les cyclones ont été favorisés durant la Niña de 1998. Donc faut être, je ne me rappelle plus la séquence. Donc vous pouvez effectivement avoir un maximum de pluie. Bon, effectivement, El Niño aussi ramène des eaux chaudes dans le Pacifique Est, mais aussi génère des cyclones au large des côtes de Costa Rica. Alors, les cyclones ont pu passer dans ces régions, mais je pense que plutôt c'est le fait que vous ayez surtout une masse d'air très chaude et humide qui a généré des convections locales et qui a dû donc dû déborder. Alors, il faudrait savoir si c'est dû, je ne me rappelle plus, durant El Niño de 97 ou de 98, donc là, la réponse, elle est un peu ambiguë. Hein. Je peux répondre, et malheureusement, je ne connais pas le cas spécifique d'Haïti. Je suis désolé.
Une question sur le côté. Oui, levez-vous.
S'il vous plaît. D'une part, l'évolution de l'activité des volcans sous-marins et d'autre part, les variations de l'activité solaire ont-ils un effet quasi nul sur le phénomène du Niño, puisque vous ne les avez pas évoqués?
Alors, les variations solaires, bon, elles existent, hein, puisque quand même, ce qui est quand même le réchauffement, il est comme issu de l'atmosphère, du soleil. Donc, il y a eu des statistiques essayer de relier les tâches solaires avec El Niño, et pour l'instant, ces techniques statistiques ne permettent pas de dire qu'il y a relation. Même chose pour les cycles, le côté sismique. Alors, il y a quelques sismologues qui ont essayé de dire que El Niño pouvait, à son tour, engendrer plus d'activités sismiques. C'est très difficile à imaginer, mais vous augmentez vos masses d'eau, je vous ai parlé de 30 cm de plus sur une surface haute comme l'Europe. Bon, c'est sûr que ça transmet immédiatement ce maximum de poids sur l'ensemble des roches en subsurface. Donc, il y a peut-être une possibilité d'une action dans ce sens-là. D'autres ont été racontés que les activités... Il y avait une statistique qui montrait qu'il y avait des coïncidences entre activités sismiques et phénomène El Niño par le fait qu'on aurait beaucoup plus de dégagement des fumerolles en grande profondeur. Mais alors, il faudrait imaginer le fond de l'océan couvert de fumerolles pour libérer de 4000 mètres de profondeur ou 3000 mètres, voire 2000 mètres, pour atteindre la surface et réchauffer l'océan. Vous vous rendez compte, il en faut des radiateurs pour chauffer tout ça. Donc, on peut-être penser, dans un sens, El Niño agissant, mais là, je ne suis pas spécialiste, sur la sismique. Dans l'autre sens, j'ai de forts doutes.
Une question de l'autre côté, voilà, monsieur.
Une question J'aimerais savoir s'il y a la même chose au niveau de l'océan Atlantique à une moindre échelle, et sinon pourquoi ?
Alors l'océan Atlantique est plus petit déjà, et surtout entouré de terre, et la taille du bassin est importante. Il y a effectivement un phénomène de petit El Niño, de petite La Niña, mais le phénomène est moindre. L'océan Atlantique tropical a une variation saisonnière relativement importante et les variations d'anomalies de type mini-El Niño, mini-El Niño ne dépassent que 1 ou 2 degrés. Elles existent. Par contre, il existe de types d'oscillations plus importantes qui se produisent tous les 10-15 ans, 5-10-15 ans. Et c'est les oscillations au nord de la zone tropicale, entre le nord et le sud de l'Atlantique tropical. Il y a une sorte de dipôle. Et c'est ce qui intéresse les océanographes actuellement. Il y a tout un réseau, je vous ai parlé du réseau TOGA qui a été mis, tous ces 70 bouées. Et on a mis en place, avec d'autres équipes, d'autres collègues, ont mis en place un réseau qui a été appelé PIRATA. PIRATA pour Pilot Research Experiment dans l'Atlantique tropicale. Il y a actuellement 12 bouées qui ont été ancrées, justement en partie pour essayer d'étudier l'importance de ce dipôle. En tant qu'océanographe, on cherche toujours des variations à long terme dans l'océan et s'ils réagissent sur l'atmosphère, on aura peut-être la chance de prévoir. Vous expliquez que c'est l'océan qui fait la mémoire du système. Donc, El Niño, c'est bien connu, on arrive à prévoir ces variations, mais on cherche tout autre indice climatique. Il y en a d'autres aussi dans l'Atlantique Nord et beaucoup de collègues travaillent sur ces problèmes. Mais pour répondre à votre question, oui, il y a d'autres phénomènes, des petits El Niño et Niña et surtout des variations à 10 ans qui vont nécessiter beaucoup d'efforts de recherche pour les 15-20 prochaines années.
Monsieur, là, levez la...
Bonjour, monsieur. Merci beaucoup de votre exposé passionnant. Étant un apprenti du français, je me permets de ramener votre oscillation au problème de langage. C'est-à-dire, avant de venir, j'ai consulté le mot El Niño dans les dictionnaires usuels. Et j'ai consulté d'abord le Petit Larousse 1980, il n'y a aucune mention à propos de El Niño. Ensuite, je suis passé au Grand Larousse en 5 volumes, 1987. Alors, la définition est suivante. Prolongement dirigé vers le sud du contre-courant équatorial du Pacifique qui s'écoule devant les côtes de Colombie et de l'Équateur. Ensuite, je suis arrivé à la dernière édition de Petit Larousse 2000. La définition change un peu. Un phénomène climatique déclenché par un réchauffement anormal de l'océan dans l'est du Pacifique à la latitude des côtes péruviennes, entraînant des dérèglements climatiques d'extension mondiale. Donc, je trouve que la dernière définition correspond exactement à votre exposé qui traitait notamment le phénomène. Tandis que la définition que j'ai trouvée, 87, il s'agit plutôt de courant, du nom de courant, de El, pardon, Corrente de El Niño. Donc il y a une certaine variation de définition du mot El Niño. Est-ce que la première définition, comme le nom de courant, est périmée ou non ? Ça, c'est la première question. La seconde question porte sur l'orthographe. J'ai trouvé dans le programme annuel de l'Université de Tous les Savoirs, programme annuel écrit El Niño sans tilde. C'est-à-dire comme si il faut prononcer El Niño. Tandis que dans le programme trimestriel, alors on a ajouté un tilde, comme dans votre document. Donc, je crois que votre orthographe avec tilde doit être bon. Mais j'espère que vous me confirmerez. Merci, monsieur.
Non, merci pour cette rappel. Effectivement, El Niño, vous avez parfaitement raison. C'est ce que j'expliquais. Il y a eu l'histoire de l'événement. Quant au tilde, je sais que chaque fois que je tape El Niño, je suis toujours obligé de faire des acrobaties sur le clavier pour trouver le tilt et il ne se fait pas facilement. Donc il m'arrive très souvent lorsque je fais des emails, alors là, ça ne passe pas. Donc peut-être que c'est ce qui s'est passé à la frappe de ce document.
Oui, c'est une erreur sur le programme. Allez-y.
Une double question. D'abord, je veux savoir si on ne peut pas contrôler El Niño, ou auquel cas, si on arrive à le contrôler, on pourrait peut-être arroser le Sahara, ça serait bien. Et deuxièmement, est-ce qu'il y aurait des conséquences sur les fonds sous-marins? Merci, monsieur. Sur la faune aussi, hein, bien sûr.
Alors, non, contrôler El Niño, non, c'est impossible. Et c'est le côté un petit peu dramatique quand je vous dis qu'il y aura une tendance, il semble qu'il y ait une tendance. Alors, est-elle normale, est-elle de fait humaine, de plus en plus El Niño et de plus en plus important et de plus en plus fréquent? Donc, c'est dramatique. Non, on ne pourra jamais intervenir. Mais le problème, c'est là, c'est que nous, scientifiques, on a montré qu'on pouvait prévoir le phénomène, certaines de ses conséquences. Et là, il y a toute une éducation à faire. Et ensuite, bon, il ne faut pas tout mettre sur le compte d'El Niño. Il faut être extrêmement prudent aussi. On a raconté que les pluies diluviennes qu'il y avait en Bulgarie, Pologne en 97 étaient dues à El Niño. Bon, peut-être qu'après coup, en faisant plein de statistiques sur des données, mais on a combien, on a quoi, on a 30 ans de bonnes données de haute qualité. Donc on a quoi, c'est, on a l'étude, on peut étudier statistiquement que 7-8 phénomènes. Donc c'est au niveau statistique, c'est très difficile. Peut-être que dans 100 ans, on pourra, alors on aura suffisamment d'histoire pour pouvoir dire effectivement que ça joue sur toutes ces régions. Pour revenir à la... Donc, aucune chance, à mon avis, d'intervenir sur El Niño. Peut-être que dans 1000 ans, on trouvera des techniques de réchauffement telles que... Mais bon, pas trop d'illusions pour nos enfants, arrière-petits-enfants et ainsi de suite. Par contre, l'influence sur la faune, ben oui. J'ai parlé des Galapagos, vous imaginez, vous êtes Kitotari nageant dans de l'eau à 20 degrés, c'est bien agréable, et hop, badaboum, 29 degrés. Alors, non seulement avec votre couche de graisse, vous avez horriblement chaud, mais tous les petits poissons, les anchois et tout ça qui vous servaient de nourriture, mais ils sont partis au diable. Soit ils sont morts, soit... Alors, donc, conséquences sur la faune et aussi sur les plantes marines. Sans compter aussi le fait que El Niño entraîne des variations du niveau de la mer. Je vous ai parlé d'une signature de 30 cm. 30 cm, ce n'est pas grand-chose, mais quand vous découvrez les coraux à marée basse systématiquement de 30 cm de plus, c'est tout de suite des milliards de kilomètres carrés de coraux qui sont exposés beaucoup plus longtemps que normal. Et le blanchiment de corail n'est pas tout à fait étranger, par exemple, à ce genre de choses. Bon, il y a plein d'autres choses qui interviennent, mais l'augmentation de température joue sur tout un ensemble, la population, la faune, la flore, et plein de collègues aussi travaillent. Je ne vous ai pas parlé du CO2, bien sûr, mais ça, c'est notre problème. Il y a des changements de CO2 liés à des dégazements de CO2 dans l'atmosphère liés à El Niño.
Nous savons que les phénomènes dans l'océan Atlantique sont plus simples à cause de la taille de l'océan qui est beaucoup plus petit que l'océan Pacifique. Mais en ce qui concerne le Gulf Stream, qui est un courant chaud qui a tellement d'influence sur le climat de l'Europe et que la moindre variation pourrait avoir des conséquences imprévisibles, ma question est la suivante. Que sait-on du Gulf Stream et de ses fantaisies?
Alors là, je veux donc... dans nos domaines océanographiques, évidemment, nous sommes assez spécialisés. Je vous ai parlé de près de 1000 personnes travaillant sur le Pacifique équatorial, El Niño et ses conséquences. Cela fait maintenant presque 30 ans que je suis océanographe physicien et j'ai passé 25 ans de ma carrière sur les tropiques. D'abord l'Atlantique tropical pendant une dizaine d'années et le Pacifique tropical. Donc je ne suis pas un spécialiste, mais il est évident que d'autres équipes très importantes travaillent sur le Gulf Stream. Je vous ai parlé de ces eaux chaudes qui sont amenées par le Gulf Stream, le Gulf Rio et le Curuchillo, qui arrivaient dans les zones vers le Spitzberg, par exemple, au niveau du Gulf Stream, refroidissent et replongent. Donc toute cette circulation qui revient, qui fait un cycle qui peut durer 200, 300 ans, voire 1000 ans, est étudiée de façon intense par beaucoup d'équipes. La France et l'Europe en particulier, beaucoup d'équipes travaillent là-dessus. Et c'est certain que si on venait à réduire le débit du Gulf Stream, un pays comme la Norvège, vous n'avez qu'à passer l'hiver à latitude équivalente au Canada, c'est la grande toundra. Donc on a peur effectivement des changements de débit de Gulf Stream. Des équipes travaillent là-dessus et le satellite que vous avez montré, il a cet avantage, c'est qu'il mesure les variations de niveau de la mer de grosso modo de 68 degrés, je ne me rappelle plus exactement, latitude nord, latitude sud. Donc incluant toutes ces variations. Donc beaucoup d'équipes travaillent là-dessus et s'en inquiètent de façon dramatique. Non, le problème, c'est la qualité des mesures. C'est ça le gros problème. Pour pouvoir mesurer de façon suivie un courant aussi large que le Gulf Stream, et surtout, on parle d'un courant, bon, il fait quoi 40-50 km de large au niveau de la Floride, mais arriver devant nos côtes, c'est illusoire de dire qu'il y a une branche du Gulf Stream qui passe par telle baie de France et qui réchauffe, qui crée un microclimat. C'est un système extrêmement large, mais... Il faut des bonnes mesures. Des bonnes mesures à l'échelle globale, c'est depuis qu'on a les satellites, donc je dirais les années 60. Là encore, on a un problème de qualité de mesure.
Une dernière question, Madame Là-haut, si vous voulez bien vous lever, pour qu'on vous voit.
Bonjour. J'aurais voulu savoir pourquoi le phénomène El Niño de 97 avait été aussi important. Et, parce qu'on dit, même pas depuis 82-84, il y a quand même une différence... énorme, et qu'est-ce que cela nous laisse présager pour les futurs El Niño et les futurs El Niña?
Alors, deux choses qui semblent avoir intervenu durant les lignes de 97-98. Bon, on savait qu'il y aurait un El Niño, puisqu'il y avait une accumulation d'eau chaude en 95-87 dans le Pacifique Ouest. Donc, je vous expliquais, on pousse ces masses d'eau chaude, le vent la contient, on pousse, c'est comme un torrent, hein, mais ça, y a un équilibre, et puis brutalement, il y a une renverse de vent. Je vous ai montré l'événement de mars 97, il a été extrêmement important et c'est en partie ce phénomène de durée faible, hein, il a duré quoi, une dizaine de jours, qui a aidé à un déferlement extraordinaire de ces masses d'eau. Mais aussi, je vous l'ai montré dans ces graphiques précédents, et ça a été aussi l'inquiétude de notre communauté, c'est qu'il y a une tendance à long terme qui fait que El Niño est de plus en plus fréquent. Alors, la question fondamentale, est-ce que superposé à ce type de variation, il n'y a pas une oscillation à long terme qui fait qu'on a ajouté une variation climatique à long terme? Alors, vous ajoutez un phénomène très rapide, coup de vent d'ouest, qui crée une réponse qui se transmet à l'ensemble du bassin. Vous rajoutez une tendance climatique à long terme sur 20-30 ans et vous avez un phénomène qui crève la surface, en quelque sorte. Mais la question, et là j'ai insisté, est-ce que ce réchauffement n'est pas naturel et n'est pas dû à notre imbécilité humaine? Et là, malheureusement, il nous faut faire des recherches. Alors, je vous l'ai expliqué, d'autres équipes font plein de recherches sur l'histoire d'El Niño. Les équipes de l'IRD, Exorstom, travaillent en particulier sur les glaces des glaciers tropicaux. On mesure des carottes de 10-15 mètres de profondeur et on a donc l'histoire des chutes de neige depuis plus de 500 ans. On cherche à démontrer est-ce qu'il y a eu des changements aussi rapides et pour l'instant, la réponse est non. Mais il faut faire plein de statistiques, il faut faire plein de mesures. Il y a de multiples mesures et de grosses équipes travaillent là-dessus parce que si on n'a pas trouvé de variation aussi rapide que depuis 20 ans et ça depuis 1000 ans, eh bien, on a de fortes chances à suspecter que c'est la raison, c'est l'effet de serre. Et c'est donc notre imbécilité. Et si c'est irréversible, alors là, ça sera trop tard. Bon, bien sûr, nous, pays développés, on pourra toujours adapter, les prévisions marcheront plus ou moins bien, mais on pourra toujours réagir. Après tout, les Canadiens s'enterrent quasiment une partie de l'hiver et ils vivent très bien. Mais malheureusement, tous les pays tropicaux hypersensibles à ces dérèglements, de plus en plus pauvres, ne pourront pas réagir. On pourra leur dire, bah, écoutez, il faudra déplacer 3 millions de personnes dans 3 mois. Ça ne se fera pas.
Joël Picot, je vous remercie.